Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la technostructure. Vous savez, ceux qui m'écoutaient, que j'ai une attitude assez critique sur l'envahissement qui s'est produit, on peut dire, sur les 30 dernières années progressivement, dans le domaine qui nous occupe, celui de l'urbanisme, la décision sur l'architecture et sur ce qu'on appelle le cadre de vie. Et la manière dont cette technostructure s'est imposée au détriment de la décision politique, des gens qui sont choisis, désignés pour cela, et évidemment aussi avec les populations. Donc il s'agit d'un phénomène complexe, à la fois par un ensemble de, on peut dire, de une espèce de corps intermédiaire qui s'est construit, à la fois public et à la fois privé, avec des liens entre les deux, et qui a produit aussi une masse incroyable de réglementations qui justifient leur existence de part et d'autre, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre et ceux qui sont chargés de le contrôler dans une espèce de, on peut dire, de compromission permanente et de partage d'intérêts croisés. Alors, il est advenu récemment l'affaire que l'on appelle McKinsey, qui est en fait une affaire politique, et comme nous sommes dans une période de campagne électorale, il me paraissait assez malvenu de rentrer dans un débat qui pourrait être interprété, attendu que il s'agit d'un phénomène qui n'est pas propre à un parti politique ou à une majorité et à une minorité, mais que c'est un phénomène général que personne jusqu'ici n'a vraiment voulu dénoncer, si ce n'est que d'une manière marginale, c'est-à-dire on dit il y a trop de réglementation, on va faire une commission pour déréglementer, et en fin de compte, le système lui-même serait chargé, c'est-à-dire on crée encore plus de commissions pour déréglementer. Évidemment, ça ne se produit jamais, puisqu'en fait, c'est avec le même remède que l'on voudrait, c'est-à-dire c'est le remède qui est lui-même le mal, comme la fameuse affaire du talc morange qui avait, où le talc était la cause des irritations des bébés et on mettait du talc et en fait c'était le talc qui produisait des maladies graves jusqu'à la mort des bébés. Donc on est à peu près dans le même scénario. Donc on va laisser ce problème, qui est un problème important parce que il recoupe au-delà de ce problème seulement, on peut dire, technique, et il y a un problème qui est celui notamment soulevé par ces bureaux d'études étrangers, qui est celui de, et là on retombe dans la campagne, celui de l'identité, celui des apports extérieurs. Et là, il s'agit d'un problème qui doit être un débat. Donc, on ne peut pas le caricaturer dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, évidemment, on ne parle pas des problèmes d'immigration dans mon propos, mais on parle des échanges. Alors, si effectivement on ferme et on reste sur des identités souvent mal construites, je parle évidemment d'architecture et d'urbanisme, on risque de à la fois d'avoir des phénomènes qui sont des phénomènes négatifs, avec un repliement, mais un repliement qui peut être aussi source de compromission avec la formation de, on peut dire, de famille, de toi, moi, de mafia aussi. Donc, c'est des phénomènes que l'on connaît dans l'histoire et il est certain que l'échange empêche cela. Alors, d'un autre côté, à l'opposé, si on a uniquement des exemples étrangers en ayant un regard totalement négatif ou ignorant, sans intérêt, sur les identités locales. Alors je reviens toujours à l'aspect culturel des choses. Il est évident que ça peut être aussi grave. Alors, les solutions, il faut, et j'en terminerai sur cela, il n'y a pas de solution heureuse. Il y a simplement des remèdes, et ces remèdes sont toujours des remèdes dangereux, et parce que d'un côté, si on fait venir évidemment trop de personnes qui vont faire, par exemple, dans le cas d'une ville et d'un urbanisme, des architectes de partout qui vont créer une sorte de kaléidoscope, ça serait inintéressant. C'est d'ailleurs la même chose peut être faite par des architectes locaux, c'est-à-dire un refus d'ancrage et de mémoire et d'histoire et de continuité spatiale historique. À l'inverse, on sait que les remèdes d'imposer trop de réglementations avec une interprétation de l'histoire qui serait figée et aussi qui serait parcellaire et qui peut être aussi orientée aussi abusive est aussi un véritable danger. Donc, on a dans les deux cas des remèdes qui sont dangereux. Donc, il faut se dire qu'il n'y a pas de solution heureuse à ces problèmes qui méritent du débat et qui méritent du débat serein. C'est le rôle justement de chroniques comme celle-là, d'aller dans ce débat dans lequel je n'ai pas la vérité, et je pense que personne n'a la vérité, puisqu'en fait, justement, ça ne peut être que des alternances, comme je vous disais, des remèdes qui peuvent être dangereux, il n'y a pas de solution idéale. Ce serait déjà une chose importante de comprendre cela, il n'y a pas justement un monde heureux comme on voudrait le croire. Donc, pour rester évidemment dans le cadre de notre émission, on va parler de culture et on va parler de la place de l'architecture dans la culture et d'une manière plus générale de ce monde culturel dans lequel l'architecture est rattachée. Alors elle est rattachée, l'architecture, au ministère de la Culture, comme vous le savez, mais ça l'a pas toujours été, puisqu'elle faisait partie aussi, l'urbanisme et l'architecture faisaient partie du ministère de l'équipement qui aujourd'hui a changé de nom. Donc, c'est devenu un objet culturel. Alors, ce ministère de la Culture, qui est tout à fait récent dans son énoncé, puisqu'il s'agissait auparavant des affaires culturelles, ce n'est pas, contrairement à ce qui est dit souvent, et c'était dans les journaux récemment, justement, avec la campagne des présidentielles, il n'a pas été créé par Malraux, le ministère de la Culture, et il a été créé, en tout cas la dénomination culture a été créée par Mitterrand pour le ministère qui a été attribué à Jacques Lang. On avait d'ailleurs, je pense, échappé au ministère de l'Intelligence. Je crois que Jacques Lang voulait l'appeler le ministère de l'Intelligence. On a échappé à cela. Et on a le ministère de la Culture qui remplace les affaires culturelles. Je ne pense pas que ce soit une très très bonne chose, parce que cette définition un peu floue de la culture, qui est la culture d'un peuple, justement le rapport à l'art, qui serait dans les affaires culturelles, c'est-à-dire une pratique et quelque chose qui serait beaucoup plus tangible. Le mot culture est un mot bien trop large et qui est, je pense, la source de beaucoup de problèmes par rapport justement à son but et à ses définitions. Alors, c'est justement le sujet que je voudrais entamer aujourd'hui, et je vais dire en fait tout d'abord ce qui me paraît être négatif, c'est-à-dire une fausse interprétation de ce que doit être l'art et dans le cadre culturel, justement. D'abord, c'est de confondre la culture avec les idées, le premier point. Le deuxième point, ce serait de le confondre la culture et les arts avec le divertissement. Et pour en arriver à un troisième sujet, c'est-à-dire quelle est la part de l'art dans la culture et évidemment, le sujet que j'aimerais traiter aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission, c'est cette définition de l'art, par rapport justement à ces deux extrêmes qui sont le monde des idées et des prises de position philosophiques, politiques, le monde du divertissement et quelle est la place de l'art. Nous allons faire une pause musicale et je vais continuer sur ce sujet qui me paraît être un sujet important.
You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. But you wanna be bad, just beat it.
Just be the beat.
Je reviens donc sur cette définition de la culture et des arts à travers à la fois les prises de position politiques et idéologiques et aussi dans ce qu'on peut appeler le divertissement. Alors, tout d'abord, revenons sur le monde des idéologies. Alors, l'architecture et l'urbanisme, qui n'apparaissent pas d'une manière aussi simple comme porteurs des idées et de l'idéologie, et aujourd'hui, à travers l'écologie, amenés, on pourrait dire, à choisir entre la vertu, entre le bien et le mal. Donc la vertu serait l'écologie, le respect de la planète, et puis il y aurait à l'opposé la destruction de la planète, la destruction de la biodiversité qui serait liée à des choix urbanistiques et architecturaux. Alors, je ne veux pas nier tout en bloc, mais je pense qu'aujourd'hui, cette prise de position, on peut dire dominante dans le discours, dans les médias, dans la politique, me paraît bien exagérée, puisqu'on ne tient plus compte justement de l'art, on ne tient plus compte aussi du rapport à l'histoire. Un rapport avec les populations dans le souci du bien-être, etc. On n'est que sur ce volet qui a pris, à la fois d'une manière, comme je vous dis, médiatique et à la fois encore plus grave, réglementaire, totalement tout l'espace. Alors, on peut dire aussi que ce n'est pas uniquement pour l'architecture. Par exemple, la peinture, aujourd'hui, il y a eu l'exposition de la FIAC, ou dans ces grandes expositions que l'on voit, ou avec les prises de position des artistes qui vont peintres, sculpteurs, ce qu'on appelle du vilain mot de plasticien aujourd'hui, sont des prises de position. Alors, à la fois majoritairement sur ces problèmes d'écologie, et je suis désolé, mais ça n'a pas tellement de rapport direct, mais ça devient une sorte de passage obligé, avec justement ces mots de vertu qui nous renvoient à la religion, et donc des prises de position à travers les peintures et les sculptures où on va se positionner par rapport à cela. On va aussi se positionner par rapport à la guerre, on va se positionner par rapport à la société, à l'évolution, aux évolutions sociales, le genre, etc. En fait, cette implication qui semble être on peut dire, une mission qui serait attribuée aux représentations artistiques. Alors, évidemment, les représentations artistiques, on le sait, dans l'histoire, elles sont représentatives de chaque époque. Mais je pense qu'il y a une erreur de la modernité de faire porter à l'artiste, c'est-à-dire à celui qui met en forme, de lui faire porter la mission d'être justement celui qui s'exprime, avec aussi une sorte de mythe où l'artiste, alors ça c'est vraiment très romantique, il serait une sorte de sentinelle, c'est le rôle des avant-gardes, c'est celui qui annoncerait ce que le peuple ne peut pas voir. Il aurait ce rôle de vigie et donc il serait porteur de cela. Alors ça, c'est une invention totalement, on peut dire, peut-être romantique, mais en tout cas très contemporaine, parce qu'en fait, dans l'histoire, ce n'est pas du tout le rôle des artistes. Les peintres et les sculpteurs n'ont pas ce rôle, pas plus que les musiciens, d'être les avant-gardes d'une civilisation. Évidemment, les avant-gardes culturelles entre guillemets, du XXe siècle annonce un changement d'époque, mais c'est pas elles qui font le changement de l'époque. Elles ne font que traduire dans la forme des changements d'époque. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, et là je pense qu'il y a un malentendu profond, c'est d'attribuer aux artistes qui traduisent la modernité, qui va être, je ne sais pas, le jazz en musique, la peinture abstraite ou le cubisme, ce n'est pas eux qui changent la société, ils sont l'expression des changements de la société, ou l'architecture moderne, ou la ville moderne. Donc, c'est quand même assez important de rappeler cela. Et donc, aujourd'hui, le travers que les artistes ont, c'est être les porteurs d'une pensée politique. Et donc, on va les juger par rapport à cette pensée politique. Et n'oublions que leur travail, c'est un travail dans la forme et qu'ils doivent être jugés sur la qualité de la forme et pas sur la qualité de leur discours. Parce que souvent, ce discours, il n'est pas d'ailleurs visible dans les œuvres, mais il est un discours qui est accompagné par des déclarations et qui accompagne les œuvres d'art. Bon, tout ça est un peu ridicule, et en tout cas, ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une œuvre très médiocre avec un discours magnifique qui correspond à l'esprit du temps sur les valeurs que l'on veut défendre, mais ça n'a aucun sens, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est l'œuvre, et quelque part, elle est indépendante de l'artiste. Alors évidemment, en littérature, on ressort toujours l'exemple de Céline et de ses libelles antisémites odieux, mais là aussi, il s'agit quand même de littérature. Donc il y a un texte qui s'exprime, donc ce qui n'est pas le cas pour les peintres, pour les sculpteurs, pour les architectes ou pour les musiciens. Mais effectivement aussi, les défenseurs de Céline en tant que créateurs de formes disent qu'il faut dissocier les libelles odieux et puis la personnalité qui n'était pas non plus très ragoûtante du personnage Céline de son invention formelle. Donc là, on est sur un cas particulier, évidemment, et on a du mal à trouver dans les sculptures ou dans les peintures un lien direct. Alors évidemment, il existe, puisqu'il s'agit dans certains cas de représentations, mais vous savez que les représentations dans l'histoire, on les a oubliées, on ne sait plus quelle est l'intention. Si vous regardez les sculptures grecques, quelle est l'intention du sculpteur grec avec des religions qui nous sont connues à travers l'Iliade et l'Odyssée, par exemple, les mythes grecs. Mais en fait, on est loin de connaître quels étaient les rituels et comment cela était perçu dans les sociétés de cette époque. Alors, il y a aussi des civilisations aussi peut-être moins anciennes qui sont en Afrique par exemple, où même l'ethnologie a du mal à très bien comprendre quel est le sens des sculptures avec les rituels. Tout ça, c'est un domaine qui nous échappe, et ce qui nous reste, c'est justement l'universel des œuvres, et c'est l'intérêt justement de cela. Alors, la dernière partie de mon propos par rapport aux idées, c'est celui du divertissement. Alors ça, c'est la culture et divertissement qui est liée justement à ce fameux ministère qui n'est plus les affaires culturelles et qui n'est plus les arts, mais qui englobe d'une manière générale dans ce terme culture le divertissement. Alors évidemment, ça a des conséquences assez importantes, parce que, par exemple, on peut dire que le cinéma français, on a des acteurs, bon c'est pareil d'ailleurs pour le cinéma un peu partout, mais qui s'arrogent le droit d'avoir des positions politiques et d'influencer. Ils ne sont que des acteurs. Et donc l'acteur est lui-même quelqu'un qui dissocie sa personne profonde, sa personne, son individu, des rôles qu'il est censé interpréter. Donc on comprend mal, encore plus que dans le cas du plasticien dont je parlais, ou de l'architecte, dont la personne privée est totalement indépendante de l'œuvre. Donc là, on a, avec notamment les acteurs, on peut dire la même chose aussi, des chanteurs, des gens qui prennent des positions, attendu que on n'a à peu près rien à faire de leur position privée, attendu qu'ils jouent des rôles. Et donc là, on a quelque chose qui est un peu ridicule, et pourtant qui envahit totalement l'espace médiatique par les prises de position. Pour des gens qui, justement, par définition, ne devraient pas en prendre, puisqu'il y a des positions qui doivent être prises par le philosophe, dont c'est le rôle, justement, de débattre des idées, les journalistes aussi, les éditorialistes et les hommes politiques. Donc, ils sont, dans le cadre démocratique, ils sont justement désignés pour cela. Et donc, cette prise de parole me semble totalement incongrue. Alors, on assiste d'une manière assez régulière à des positionnements ou des manifestations, ne serait-ce que par exemple les intermittents du spectacle. Et là aussi, le spectacle, c'est un terme ce qu'on appelle le spectacle vivant, est un terme assez large qui à la fois va avoir les musiciens classiques, la musique moderne, et également on va avoir des spectacles qui peuvent être, je sais pas, du spectacle du cirque, mais tout ça est fort intéressant et nécessaire, mais qui n'a pas un cracheur de feu, je veux dire, il n'est pas un créateur ou un jongleur. Mais tout cela est intéressant dans une société, mais il y a des hiérarchies, et je pense que un des problèmes du ministère de la Culture, justement, c'est de ne pas avoir hiérarchisé et d'être un fourre-tout de toutes ces modes d'expression, avec certains qui sont du type, on peut dire, divertissement, du type folklorique, le divertissement étant quelque chose de nécessaire. Et le cinéma est à la fois porteur de ce divertissement. Mais enfin, je ne pense pas que, bon, les Tuches, c'est pas Bergman, et Bergman n'est pas Racine. Enfin, de vouloir faire un fourre-tout sur la forme, on arrive à des situations qui sont dans cette ambiguïté aujourd'hui. Alors il faut rappeler, et ça va être ma conclusion, que l'art est dans la forme et qu'il n'est pas dans le discours de la forme que va apporter le créateur. Le créateur, il doit être, enfin, je n'aime pas trop le mot créateur, mais disons l'artiste. Et celui qui produit la forme, et il doit être jugé sur la forme et pas sur les intentions de la forme. Les intentions, c'est un discours qui est plaqué, il ne peut être jugé seulement que sur le résultat. Donc là, aujourd'hui, il y a cette confusion entre les intentions et les discours qui vont être idéologiques, qui vont être portés et qui n'ont aucune légitimité dans l'espace, puisqu'en fait, les seuls jugements que l'on peut donner sont pas les jugements sur les intentions. Et vous connaissez ma critique des concours d'architecture. Les concours d'architecture, c'est des intentions et ce n'est pas sur des résultats. Donc on devrait juger les gens sur des résultats, quitte à les éliminer ou les réemployer, mais pas sur les discours et sur les intentions. Voilà, c'est la conclusion d'aujourd'hui sur mon propos sur l'art. Et je vous dis à la semaine prochaine.